Premier aspect, du côté de la science. Second aspect, du côté de la société, c'est-à-dire de l'ensemble des hommes, c'est-à-dire des utilisateurs de la science. Alors, du côté de la science, premièrement, la science a besoin de liberté. Il n'y a pas de création scientifique sans liberté. Et on pourrait même dire, à la limite, que dans cette société où les hommes vont pulluler, nous évoluons vers une société concentrationnaire, enfin, trois ou quatre siècles près. À ce moment-là, est-ce que les hommes ne vont pas s'organiser d'une manière totalitaire? Ça peut être la conséquence inéluctable du nombre de la forte densité terrestre en hommes. Et où sera le dernier refuge de la liberté? Car il est très frappant que, au total, la liberté recule. Ce qui m'étonne, on n'en est pas très conscient, bien sûr, dans nos pays occidentaux, mais au total, il me semble que la liberté recule. Il y a des signes. Un de ces signes, c'est la perte de la notion d'immunité. Et autrefois, chez les Romains, quand il y avait des criminels de droit public, ils pouvaient se garder de la punition, de la vengeance de la société en allant toucher la toge du tribun de la plèbe. Et il était immunisé contre les conséquences de ces actes tirés par la société, contre la punition sociale. Il n'y a pas encore si longtemps, il y a 50 ans, au Maroc, quand un criminel pouvait se réfugier dans une mosquée, et à ce moment-là, il était protégé par Dieu. Et la société ne pouvait plus rien contre lui. Or, cette notion d'immunité disparaît. Et même l'immunité parlementaire, c'était aussi une notion importante, il fallait qu'un homme élu soit libre. Totalement, il était le représentant de la volonté du peuple, il devait donc être totalement libre dans sa démarche de pensée. C'était une notion précieuse. Et bien, cette notion d'immunité parlementaire qui a donc un sens, celle-là, beaucoup plus encore que l'immunité en face de la société, même celle-là se perd. Et il y a de par le monde un certain nombre de parlementaires qui sont enfermés. Et il y a même des procédures de levée de l'immunité parlementaire. Donc ce qui me frappe, c'est que cette notion d'immunité se perd. Et où sera alors le dernier refuge de la liberté dans ces sociétés concentrationnaires qui s'annoncent? Ce dernier refuge, pour moi, ça sera le laboratoire. Et pas parce que ces sociétés seront respectueuses d'une liberté qu'elles érigeraient comme une sorte d'absolu, puisqu'elles n'auront pas le goût de la servir, mais parce que ces sociétés auront besoin de la science, parce qu'elles seront inéluctablement d'infrastructures scientifiques, parce qu'on n'a pas encore tué la science, quelles que soient les retombées des événements de mai, et que la liberté, c'est la règle du jeu pour l'esprit créateur. Donc pour des raisons d'efficacité, ils sont obligés de maintenir la liberté. C'est ce que l'on voit du reste, c'est ce qu'on a vu avec l'affaire, avec les... chaque fois qu'on a mis des savants en prison. C'est très caractéristique quand on a voulu priver les savants de leur liberté physique. C'est caractéristique de l'Union soviétique et du fameux procès Lysenko. Lorsque Lysenko a voulu, au nom d'une intolérance dans la liberté de penser, parce que ça c'est l'exemple, l'illustration de ce que j'avance, au nom d'une intolérance de la liberté, dans la liberté de français de penser, soumettre à cause de son amitié avec Staline ses collègues, il n'avait pas la même conception sur les théories génétiques que lui-même. Au lieu de placer le débat sur le plan strictement scientifique, la vérité étant le seul arbitre, le seul critère, il les a placés sur le plan politique Et il a dit, les idées mandéliennes, sont des idées réactionnaires. Moyennant quoi, tous ceux qui étaient tenants de cette théorie-là ne méritaient pas de rester libres. Et voilà comment il a voulu porter, il a eu cette confusion, n'est-ce pas, des domaines. Finalement, c'est Lysenko qui a eu tort dans l'histoire. Et y compris dans les sociétés fortement structurées comme les sociétés communistes, on sait bien que si on enlève à l'homme de science sa liberté, il ne produit plus. Y compris sa liberté de pensée.
Alors, le domaine de la liberté, par la simple bonne raison que les gens ne comprendront plus ce qui se passe dans le laboratoire, et que fatalement la liberté, restant un domaine de l'inconnu, pourra...
Il restera en effet, au fond, on peut avoir mon corps, on ne pourra pas forcément dominer mon âme, n'est-ce pas ? Ça c'est clair. Et ça c'est la phrase de l'évangile, craignez ceux qui peuvent compromettre votre âme, mais ceux qui prennent votre corps, aucune importance, n'est-ce pas ? Il y aura de toute façon un refuge intérieur qui sera le domaine inviolable où l'homme restera libre, n'est-ce pas ? Ça c'est vrai dans la mesure où cette inviolabilité sera vraiment sauvegardée, mais avec les techniques de pression, avec les techniques psychologiques, même l'inviolabilité de ce bastion de la personnalité intime, enfin, même cela est compromis, et même, ça c'est un autre aspect, alors enfin, nous dévions un petit peu, le droit à sa propre identité. Ça aussi risque d'être lui-même compromis par les entreprises des sociétés, avec les drogues psychotropes, avec toutes les techniques de viol des consciences et de viol même biochimique, avec les acides nucléiques qui transformeront les hommes. Nous n'aurons même plus droit à notre identité, et peut-être même plus à notre vie intérieure. Mais ça c'est un autre aspect, je dirais. Si vous permettez, je voudrais... poursuivre d'une manière, enfin, un peu, enfin, je voudrais vous exposer une sorte de plan schématique, n'est-ce pas ? Donc, première idée, la société, même totalitaire, doit sauvegarder la liberté du savant dans son laboratoire, sinon, il n'y a plus de création scientifique. Et par souci d'efficacité, elle devra donc préserver la liberté du savant, finalement. Peut-être que l'unique refuge de la liberté, l'unique lieu libre dans ces sociétés, sera le laboratoire. Ça, c'est un aspect. Autre aspect, mais alors voilà un autre aspect maintenant. La science sécrète la puissance. Et la puissance, alors là, asservit la science. Ou bien, l'homme de science devient l'ordonnateur de cette puissance. Donc voilà un fait. Savoir, c'est pouvoir. Bon. Que faire de ce pouvoir ? Alors ça, c'est très important aussi parce que... et c'est là que je dis, la puissance peut... Il arrive que la puissance asservisse la science. Les hommes de science se battent pour avoir le droit de publier. Le secret a été combattu, et est unanimement combattu par les hommes de science. Et pourtant, il y a des circonstances où le secret est imposé. Pourquoi ? C'est quand la science, au lieu de se mettre au service de la multitude des hommes, comme ça devrait être dans une société idéale, se met au service d'un groupe particulier d'hommes. C'est l'exemple des industries, avec le secret dans les industries. Secret tant qu'on n'a pas pris de brevet, et après on exploite le brevet pendant un temps certain. Ou c'est l'exemple des armées où il y a le secret militaire dans les laboratoires de recherche militaire. Là encore, il s'agit de la science mise au service non plus d'un intérêt universel, mais d'un intérêt d'un groupe particulier, qu'il s'agisse d'une industrie ou d'une nation. Je ne voudrais pas être simpliste. Je ne veux pas dire que c'est absolument mauvais car il y a des... parce qu'enfin, quand une industrie trouve la pénicilline, ça ne lui reste pas une industrie qui l'a trouvée, n'est-ce pas, dans le cas particulier. C'est du reste peut-être pas un hasard si elle ne l'a pas trouvée. Ça, on pourrait en discuter. Mais enfin, imaginons qu'une industrie trouve un bon médicament, l'industrie n'est pas forcément le mal absolu. N'est-ce pas? Donc, un scientifique qui se met au service d'une industrie pour la prospérité de cette industrie, si cette industrie est orientée vers le bien public, il est normal qu'il y ait une règle du jeu et que si elle donne les moyens de la recherche à un savant, en même temps, elle demande par réciprocité une certaine limitation de sa propre liberté d'expression. Bon, et même de choix des sujets, ce qui est plus grave. Mais de même, le secret militaire, est-ce forcément un mal? On peut en discuter, car une armée peut défendre les valeurs d'une civilisation, enfin, c'est la raison d'être des armées. Ça, c'est une question dans laquelle je ne veux pas intervenir. Mais enfin, je ne voudrais pas dire a priori que tous les hommes de science qui travaillent pour une armée sont des criminels en puissance, n'est-ce pas? Ça dépasse infiniment, en tout cas, l'objet immédiat de notre entretien. Alors le drame, dans cette dialectique, de toute façon, le péché de la science, en même temps que sa chance, car c'est de sécréter la puissance. Je dirais que c'est sa chance pour les hommes, parce que cette science, par la technique qui est l'application de la science, modifie nos sociétés, et peuvent les modifier d'une manière valable. Pas toujours, mais enfin, quand même. Il y a une augmentation générale du niveau de vie, c'est l'acquisition de nos sociétés scientifiques, c'est clair. Mais le péché de la science, quand même, c'est que cette puissance peut être une aliénation. Elle peut être une aliénation pour certains aspects des revendications de l'homme, et alors là on pourrait reprendre toutes les critiques qui ont été faites de nos sociétés technologiques, car ce n'est pas l'accomplissement de l'homme que ces sociétés technologiques nous proposent, pas de tout l'homme en tout cas, de certains aspects de l'homme, mais pas de tout l'homme, et il est clair que certains aspects de l'homme sont méconnus. Alors là, on peut le dire, n'est-ce pas? Alors là, il faudrait entrer dans toute l'exégèse des révolutions des jeunes, dans le monde entier probablement, qui n'accepte pas cette société telle qu'on nous la propose, telle que la science l'a modelée, dans certaines, surtout en Occident. Là encore, il faudrait être nuancé, ne pas décrire les révolutions qui se passent dans certains territoires sous-développés comme ne mettre la même interprétation que dans les sociétés technologiques. Enfin, on ne va pas entrer dans le détail. Mais c'est quand même une aliénation, ça peut être aussi une aliénation pour l'homme de science, lui-même. Pourquoi ? D'une part parce que ça lui enlève sa liberté. À partir du moment où le pouvoir devient l'objectif à court terme des commettants de la science, pouvoir militaire, pouvoir industriel, n'est-ce pas, pour la prospérité industrielle et pour le profit dans le cas particulier, pour le profit d'un groupe industriel ou pour le profit d'une nation, c'est-à-dire son rayonnement, son empire économique, etc. À ce moment-là, le gratuit est perdu. Or, perdre le sens du gratuit en science, c'est très grave. Parce que il faut que l'esprit souffle où il veut. Si on ne laisse pas l'esprit souffler où il veut, alors nous courons le grand risque de perdre des très grandes découvertes qui auraient pu être faites si l'esprit avait été totalement libre. Et là, il y aurait probablement une belle page à écrire sur les illuminations de génie des hommes de science qui ont permis les théories les plus hasardeuses, simplement parce qu'ils ont eu le courage de laisser et qu'ils ont eu la possibilité de laisser leur esprit souffler où il veut. Bien, je suis très frappé de ce qu'a dit Pasteur. Pasteur, les premières expériences qu'il faisait, c'était dans son grenier de la rue d'Ulm. Et il avait 20 ans. Et il était surveillant à la rue d'Ulm. Et il était dans son grenier, il avait son microscope et il triait des cristaux d'acide tartrique. Et il a vu les cristaux gauche et droit, combien une main gauche et une main droite. Et comme ces cristaux étaient fabriqués par la vigne, et que Il a eu l'idée par ailleurs de dissoudre ces cristaux d'acide tartrique, de faire passer la lumière polarisée, et il a vu que la lumière polarisée, qui vibre dans un seul plan, était déviée à gauche ou à droite, ce qui était le signe d'un pouvoir rotatoire de cette solution d'acide tartrique. Et il a dit, comme ce pouvoir rotatoire lui-même est le signe d'une dissymétrie dans la constitution des molécules, il a eu cette idée, cette illumination de génie, la dissymétrie, c'est la vie, n'est-ce pas ? Bon. Pourquoi la vie ? Parce que ces cristaux d'acide tartrique avaient été fabriqués par la vie. Bon. Depuis, on a découvert que toutes les molécules organiques sont dissymétriques, et que, enfin je ne vais pas entrer dans le détail sur l'origine de la vie, mais enfin on pense, ça a permis de très grandes conclusions sur l'origine de la vie. Bon. Ensuite, Pasteur, à cause des circonstances de la vie, a accepté les sollicitations. Et les sollicitations de tous ceux qui venaient lui soumettre des problèmes. Il y a eu le problème du vin, le problème du charbon, le problème de... Il y a eu des problèmes qui ont surgi, et donc il a mis son génie à résoudre des problèmes que les circonstances extérieures, que le hasard lui a soumis, n'est-ce pas ? Et il les a résolus avec génie. On pourrait presque dire qu'à partir de ce moment-là, il a fait de la recherche appliquée, n'est-ce pas ? Encore une fois, avec des découvertes qui ont fondamentalement modifié nos conceptions fondamentales elles-mêmes, donc, parce que c'était le génie de Pasteur. Mais, ce qu'il y a de très bouleversant, c'est que tout à fait à la fin de sa vie, Pasteur a dit, j'ai perdu ma vie. Pasteur. Il a eu le sentiment de l'échec. Et il a dit pourquoi. Il a dit, si c'était à refaire, je renoncerais à toutes ces recherches appliquées. Et je poursuivrai une grande et belle recherche dans le domaine de la recherche fondamentale, la dissymétrie. Je crois qu'il n'y a pas d'exemple la plus saisissant, et il a probablement raison. Il a probablement raison. Je crois qu'il n'y a pas alors donc d'exemple plus saisissant que celui-là. Maintenant alors donc, je dis donc, quand se perd le sens du gratuit, plus de créativité, c'est un drame pour la science. En quoi le pouvoir est encore aliénant ? C'est quand l'homme de science devient l'ordonnateur de ce pouvoir. Au fond, ben, je dirais, le pouvoir, la science sécrète la puissance, et cette puissance peut asservir la science quand elle lui impose des sujets de recherche et quand elle lui interdit les publications. Quand elle lui impose des sujets de recherche, ça, je mets un petit peu d'ordre, là, n'est-ce pas ? Quand elle lui impose des sujets de recherche, ce sont le plus souvent des recherches appliquées, donc des recherches à court terme. C'est le système des contrats de recherche que vous propose l'armée, les industries, etc. C'est le système de la règle de fer des industries, de l'industrie pharmaceutique, par exemple. Il faut qu'elle trouve des médicaments, et il faut que les médicaments soient trouvés dans un délai de 2-3 ans, etc. Et quand des hommes de science sentent qu'il y a des pistes importantes de recherche fondamentale dans l'industrie, c'est considéré comme un luxe, et quand on fait, il suffit d'interroger un industriel qui est à la tête d'une industrie pharmaceutique pour voir quel est le pourcentage, et ça il n'y a qu'à laisser parler le langage des chiffres, pour voir quel est le pourcentage appliqué à la science pure, fondamentale, et le pourcentage attribué à la science appliquée, à ce qu'ils appellent le développement, vous serez très frappé. Il n'y a guère que Bayer, je crois, ou Bada Anili, je ne sais plus quelle est, une société Farben Industries, je crois, qui, avant la guerre de 1939, avait divisé son budget en trois, la recherche fondamentale, avec la liberté la plus totale. On misait sur des hommes de sciences valables, on leur disait, vous êtes chez vous, et vous faites ce que vous voulez. N'est-ce pas ? La recherche appliquée, et puis ce qu'ils appellent le développement, c'est-à-dire alors le très court terme, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, il y a des industries qui ont cultivé le sens du gratuit. Mais de même que le sens de l'immunité se perd, il n'est pas, je pense que c'est un des signes du temps, un des signes inquiétants de notre temps, que le sens du gratuit se perde. Alors que pourtant, le gratuit, comme la liberté, et c'est lié, du reste, c'est la liberté de faire du gratuit, Le gratuit comme la liberté sont absolument indispensables pour une... simplement même sur le plan de la rentabilité, pas seulement sur le plan de l'épanouissement de l'homme de science, sur le plan de la rentabilité scientifique. Donc, conséquence, la science sécrète la puissance asservit la science de quelle manière ? Elle impose des sujets à court terme. Court terme, c'est... Alors, les défenseurs, tout de même, parce qu'il faut voir l'autre aspect, les défenseurs diront, ben oui, mais si les hommes de science comptent le nombre de pattes de 1000 pattes, c'est bien beau, mais pendant ce temps, il y a des hommes qui meurent de faim. Donc, il y a des problèmes très urgents qui s'imposent, et quand l'industrie propose des sujets à court terme, elle-même ne les a pas choisis au hasard. Finalement, dans la loi de l'offre et de la demande, la prospérité d'une industrie, c'est quand ses produits répondent à des besoins, donc l'industrie est à l'écoute des besoins des hommes, finalement, c'est le bien des hommes. Donc il ne faut pas juger d'une manière manichéenne en disant l'industrie c'est le mal, elle tue la science, elle l'a servi, etc. L'industrie c'est la société, ce sont les hommes donc qui font pression sur l'industrie pour le choix des sujets. Mais on n'a fait que déplacer le problème, n'est-ce pas ? Alors dans ce cas-là, disons que c'est la société tout entière, et pas seulement les industries qui en sont une des expressions, qui a perdu le sens du gratuit, n'est-ce pas ? De même qu'il n'y a plus de poètes, enfin, que les poètes, qu'il n'y a plus de place pour le poète dans nos sociétés. Et alors je reprends. Donc, projets de recherche à court terme, qui sont des limitations, un aspect. Un autre aspect, interdiction de la publication, le secret. Alors ça aussi c'est grave, parce qu'il y a une république des savants. C'est une république qui dépasse les frontières, qui dépasse les régimes politiques et qui dépasse le temps. Dans cette république des savants, on retrouve tous les morts et tous les vivants. Et quand on fait une bibliographie, quand on interroge, quand on aborde un sujet nouveau et qu'on regarde quels sont ceux qui ont abordé le même sujet avant vous, on interroge les morts, on interroge les bibliothèques. Et puis on interroge tous les pays. Et alors là, c'est une notion très importante, c'est l'unité de la vérité scientifique. Et la science, facteur d'unité pour les hommes. Parce qu'il n'y a pas tellement de facteurs d'unité pour les hommes. Mais la vérité scientifique, sur la vérité scientifique, tous les hommes sont d'accord. Et une des manifestations, c'est que pour avancer dans la science, il faut faire le bilan de tout ce qui a été fait, un bilan en s'appuyant solidement sur les vérités scientifiques des acquisitions définitives de la science, et pour aller plus loin. Or, c'est dire que pour un progrès de la science, il faut que les vérités scientifiques circulent. Sinon, alors là, c'est un aspect de rentabilité, on risque de refaire des recherches qui ont déjà été faites par d'autres, donc c'est perdu, c'est du temps perdu, et puis les esprits se fécondent mutuellement. Et si l'on supprime ce dialogue entre les vivants et les morts, ce dialogue qui recouvre toute la Terre, qui est extrêmement ardent dans la République des savants, là encore, on va couper ses ailes à l'esprit. Donc voilà encore un aspect d'une société aliénante qui, au nom d'impératifs immédiats de profit, par exemple, ou d'efficacité, risque de perdre à long terme ses raisons d'être, n'est-ce pas ? Alors après, l'autre aspect de l'aliénation, c'est quand l'homme de science non plus est asservi par la science, on avait vu deux aspects, mais devient l'ordonnateur de la puissance. Car ordonner la puissance, c'est passer beaucoup de temps à ne plus chercher. C'est passer beaucoup de temps à orchestrer, à organiser. C'est d'une certaine manière aussi une aliénation. Au fond, et alors là, ça tient au caractère ésotérique de la science. Cette puissance que la science donne aux hommes, comment la manier ? Qui va la manier ? Elle ne peut être maniée que par des hommes qui savent ce que c'est. Donc, on ne peut plus passer des hommes de science dans un conseil d'administration de Philips, par exemple, ou M. Casimir, qui est un très grand savant, directeur du centre de recherche hollandais de Philips, du Centre international de recherche, un très puissant laboratoire, fait tout naturellement partie du conseil d'administration de Philips. On ne peut plus passer des hommes de science dans les comités interministériels. Il y a des comités interministériels où les hommes de science siègent avec le gouvernement. C'est l'exemple de la France, où des hommes ont, ou 12 sages, c'est-à-dire les membres du comité scientifique de la délégation générale à la recherche scientifique et technique, siègent de temps en temps avec les ministres. Ils ont donc accédé au pouvoir, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de gouvernement sans conseiller scientifique. Et par exemple, on sait que M. Nixon a pour conseiller scientifique le professeur Lee Dubridge, qui est un très grand savant indiscuté, mais qui joue un rôle important par nécessité, n'est-ce pas? Ce jour-là, ces hommes deviennent les hommes du pouvoir. Ils ne sont plus les hommes de la recherche. D'une certaine manière, c'est une aliénation. Aliénation sur ce plan-là, c'est peut-être un épanouissement sur d'autres plans. Encore une fois, je ne veux pas être trop dogmatique. De la dialectique de la science et de la liberté. Maintenant, je voudrais voir l'autre aspect du côté des utilisateurs de la science. Est-ce que... Alors là, vraiment, on touche au problème de la civilisation et de l'organisation de nos sociétés. Avec cette science, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut libérer les hommes des antiques fatalités, de la fatalité de la faim, de la sénescence, de la maladie. Ça, c'est très très important. Donc, je crois qu'il faut accentuer fortement l'aspect libérateur de la science. Il est clair que, ayant ainsi, la fatalité, c'est le contraire de la liberté. C'est pour ça que j'emploie le mot fatalité dans l'étude de la dialectique de la science et de la liberté. Nous échappons aux anciennes fatalités. Et l'on peut mettre de la pesanteur, etc. Au point que, puisqu'on échappe à la gravitation, à la pesanteur, on échappe à l'attraction terrestre, je veux dire. Mais et c'est au point que la science, à ce niveau-là, devient pourvoyeuse de rêves. Elle est pourvoyeuse de rêves parce que elle apporte, parce qu'au fond, il y a dans les mythes, il y aurait là aussi une belle page à écrire, tous les mythes qu'au cours des millénaires, l'humanité a nourri dans cet inconscient collectif dont parlait Jung, ces archétypes, etc. Il y a au fond les rêves que les hommes ont toujours portés avec eux. Quel que soit le point de la Terre où ils sont nés. Et il est très frappant de voir cette convergence des mythes qu'on retrouve dans les patrimoines de toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, n'est-ce pas ? Qu'elles soient primitives, anciennes, récentes, qu'elles soient d'Orient, d'Extrême-Orient ou d'Occident, on retrouve un certain nombre de mythes. Et ce qui est extrêmement frappant, c'est que la science permet de répondre à ces rêves millénaires, échapper à la gravitation. Et je me demande même si la fascination qu'exerce sur les hommes la conquête du cosmos, qui ne tient pas forcément au goût de la prouesse technique, qui ne répond pas à un besoin immédiat de notre planète que d'aller conquérir la Lune, alors qu'il y a tant de choses à faire pour cultiver notre planète, c'est peut-être parce que cette immense aventure est portée par le rêve millénaire des hommes. Donc on pourrait faire déjà aussi un très beau chapitre sur la science pourvoyeuse de rêves et la science apportant une réponse au rêve millénaire des hommes. Et l'on pourrait presque dire que ça oblige, alors ça c'est un autre aspect, à un dépouillement des religions. Car les religions... Devant les fatalités qui confrontent l'existence terrestre des hommes, quel était le recours? Il y avait le recours de la religion, c'est-à-dire s'adresser, puisque nous étions impuissants devant ces fatalités, au Tout-Puissant, n'est-ce pas, c'est-à-dire Dieu. Et alors il n'y avait plus que la prière pour qu'il pleuve quand il y avait la sécheresse, pour que le soleil reparaisse quand il y a trop de grêle, pour que le malade soit guéri, etc. Or voici que maintenant l'homme a pris son destin en main et que pour qu'il pleuve, il a inventé des procédés pour faire pleuvoir. Et pour guérir le malade, il a inventé pas seulement la christiane science, n'est-ce pas ? il avait voté d'abord la médecine, n'est-ce pas ? C'est-à-dire les grandes applications de la science médicale. Et c'est peut-être un des aspects de la crise religieuse, entre parenthèses. Car finalement, il y a eu un transfert. Et les hommes qui avaient recours au Tout-Puissant, voici qu'ils ont recours à la science. Et on a dit, la science a détrôné la religion. N'est-ce pas ? Et c'est vrai que d'une certaine manière, beaucoup d'hommes croient religieusement à la science, comme ils croyaient religieusement au Tout-Puissant. Et ils croient et ils donnent, et alors dans ce transfert, ils attribuent à la science, ils confèrent à la science des attributs de Dieu. La science qui devient un absolu, n'est-ce pas, et nous parlions tout à l'heure des mentalités religieuses de certains hommes de science, qui érigent la science elle-même en absolu, comme si la science avait réponse à tout, simplement parce qu'elle a sécrété la puissance et qu'elle a fait la démonstration de sa puissance. Là encore, je crois que ça fait partie des crises de croissance de l'humanité, et je dirais que c'est presque une maladie d'enfance, et de la science, et de l'humanité, et peut-être même des religions. Car les religions elles-mêmes ne sont pas achevées. Et je crois que on aboutit dans cette crise religieuse, qui est aussi une des caractéristiques de notre temps, et que moi j'explique à partir de l'ère scientifique qui est la nôtre, dans laquelle nous sommes entrés, je crois que cette crise religieuse va aboutir non pas à la mort de Dieu, quoi qu'on en ait dit. Elle va aboutir à une sorte de dépouillement de la religion, de tout ce qu'il y avait de trop immédiatement temporel dans les rêves des hommes qu'il proposait. Dans les prières des hommes qu'il faisait élever vers Dieu. Et je crois au contraire, moi, un jour, à une spiritualisation des religions, parce qu'il restera toujours un domaine de l'origine et de la fin du mystère de notre destin qui, pendant très longtemps encore, nous échappera. Alors, ceci dit, revenons du côté des sociétés, n'est-ce pas ? Donc je voulais mettre l'accent sur ce qu'il y a d'extrêmement bénéfique, libérateur, dans ces sociétés scientifiques. Je ne voudrais surtout pas apparaître comme une sorte de nostalgique du passé et m'affliger que la Suède, pays super scientifique, les Suédois ne chantent plus, alors qu'en Espagne, pays qui ne connaît pas encore le plein développement scientifique, les Espagnols chantent. Ça n'est pas au nom de cette perte du sens de la fête, de certaines joies de vivre, qui était liée au fond au gratuit, n'est-ce pas, à la liberté, à on est soi-même, on est comme les lys des champs, on est comme les oiseaux du ciel. Je ne voudrais pas, à cause de cela, condamner la science. Il ne faut pas être un nostalgique du passé. D'abord, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de sens. On n'arrêtera pas la science. Si, on peut l'arrêter, mais pour un autre aspect, il y a une crise de la science, c'est un autre aspect de la question. Mais ceci dit, il y a. Je voudrais donc mettre l'accent sur les bienfaits de la science. Et là, c'est un dossier à plaider. À plaider d'autant plus que. Après, il faudra bien ouvrir l'autre aspect de la science, c'est-à-dire les conséquences néfastes de certains usages de la science. Et là, je voudrais introduire une distinction fondamentale, qui est que ce n'est pas la science en soi qui est mauvaise. La science, c'est la connaissance, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ah oui, c'est parce que la science, c'est la connaissance, n'est-ce pas ? La science, c'est la connaissance. Ce qui est mauvais, c'est ce qui peut être bon ou mauvais, c'est l'usage qui en est fait. Donc, puisque nous ouvrons le chapitre du procès de la science, je trouve que ce procès, qui a erreur de destinataire, pour ainsi dire, ce n'est pas la science qu'il faut accuser. On n'accuse pas 2 et 2 font 4. On n'accuse pas la vérité, n'est-ce pas ? C'est l'usage qui en est fait, c'est-à-dire que nous nous déplaçons du domaine de la connaissance pure au domaine des mœurs, au domaine de l'éthique ou la morale, si vous voulez. Alors, cette précaution oratoire étant prise, et c'est plus qu'une précaution oratoire, on peut alors s'interroger sur ce qu'on pourrait appeler les conséquences de la science. Donc on distingue même la science de ses conséquences. Alors, ces conséquences, d'autant plus que les conséquences de la science, ça c'est un aspect que j'aurais dû traiter du côté, dans le chapitre précédent, si vous voulez, du côté des bienfaits. Car il y a une des conséquences de la science, c'est l'accroissement, enfin l'élargissement de la vision de l'homme, n'est-ce pas? Alors nous quittons les applications bénéfiques et nous envisageons simplement la conscience que l'homme a de lui-même et de sa place dans l'univers. Ce néant capable de Dieu entre ces deux, dans cet univers pascalien qui finalement devient le nôtre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la science peut nourrir plus que jamais la méditation pascalienne entre les deux infinis. Or cela, c'est pas cela aussi, c'est très important, n'est-ce pas? Donc c'est la grandeur de l'homme, la science, c'est l'aventure de l'homme. Donc dans le premier chapitre, qui est une sorte d'hymne de gloire à la science et qu'il faut chanter, n'est-ce pas? Je dirais que la science grandit l'homme parce que par la science, l'homme est encore plus pleinement lui-même, plus conscient à la fois de sa petitesse et de sa grandeur, de son destin. Et peut-être que ça situe même sa propre méditation religieuse, parce que je ne veux absolument pas amputer l'homme de la dimension religieuse, parce que ça fait partie, parce que l'homme est un animal religieux, et ce serait une absence de réalisme que de l'amputer même de cette dimension-là, n'est-ce pas? On peut en discuter, mais pour ma part, c'est ce que je pense. Donc, la méditation religieuse elle-même peut alors se déployer à partir de prémices qui sont beaucoup plus valables que les prémices dont disposait l'homme religieux au début. Et c'est pourquoi, du reste, dans la crise de la science et de la religion, tout n'est pas mauvais. Car on pourrait dire que pour une église ou pour des églises moins apeurées devant les progrès de la science et moins en état de défense devant ce qu'elle croit être des agressions, pour des églises qui sauraient voir les choses d'assez haut et avec assez de sérénité, Elle devrait saluer la science dans sa haute et pleine dignité et devrait utiliser tout ce que la science apporte pour nourrir la réflexion théologique. C'est un des aspects. Et finalement, au-delà de la réflexion théologique, je voudrais dire que simplement pour tout homme, plus modestement, qui est habité, qu'il le veuille ou non, parce qu'on pourrait appeler l'inquiétude métaphysique, d'où venons-nous, où allons-nous, il y a quand même un mystère, comme vous disiez, que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Je crois quand même que situer cette inquiétude dans la réalité de ce monde, dans la réalité cosmique, pour situer notre place dans cet univers où nous ne sommes rien, et où nous sommes capables de comprendre, pourtant de comprendre que nous ne sommes rien, et capables de faire entrer l'infini dans nos méditations, je crois que cela, c'est aussi une des très grandes vertus de la science. Je voudrais alors maintenant reprendre le procès de la science. Alors allons-y, essayons de faire ce procès de la science. En réalité, c'est le procès des mauvais usages de la science. Ce procès des mauvais usages, il est relativement facile à faire parce qu'on ne le voit que trop. Ces mauvais usages, d'abord le premier, c'est lorsque la science prête complicité aux passions meurtrières des hommes, pour reprendre la formule de Jean Rostand. Je veux dire les usages guerriers de la science. Dans la mesure où une guerre qui utilise des moyens démesurés peut avoir des conséquences dramatiques pour l'espèce humaine tout entière. Et on pourrait presque là ressusciter la vieille querelle des guerres justes et injustes. La vieille querelle théologique, n'est-ce pas ? Puisque les églises elles-mêmes considèrent qu'une guerre est injuste lorsque les armes qu'elle emploie tuent des civils ou ne sont pas appropriées à l'objectif. Alors c'est la fameuse guerre ABC, atomique, bactériologique et chimique, mais là on voit tout ce que l'on peut dire sur un thème aussi dramatique et difficile, du reste. Un certain mauvais usage de la science, c'est quand l'homme détruit son environnement par la surexploitation et l'épuisement des terres. Lorsque il vit dans l'artifice par l'utilisation de colorants, lorsque il inventant des substances plastiques, il les abstrait des cycles biologiques. Et l'on a dit par exemple que il y a de nombreuses substances synthétiques qui ne sont plus biodégradables. Prenez un banylon, mettez-le en terre, dans 100 ans, il sera intact. Et il est donc soustrait au cycle biologique. Et ça, c'est très grave quand on sait que la vie récupère tout à cause du drame de la pénurie que j'ai développé dans d'autres circonstances. En sorte que le domaine de la vie, le domaine des matériaux dont, que la vie pourra utiliser pour se maintenir et se développer et s'exprimer, ce domaine risque de se réduire comme une peau de chagrin. Et c'est le gros problème des substances qui ne sont pas biodégradables. Alors ça, c'est en effet une des grandes conséquences de certaines découvertes scientifiques mal utilisées pour permettre de satisfaire des besoins immédiats des hommes ou leurs caprices. On peut parler de ce que Jean Rostand appelle l'orgie médicamenteuse, c'est-à-dire l'utilisation massive de médicaments alors que cette utilisation n'est pas toujours indiquée. Et puis alors surtout, on peut parler des utilisations de masse, au fond, de la science. Ces utilisations de masse qui peuvent être, qui peuvent transformer l'homme. Je veux dire, cette hypothèse de Müller, disant si l'on donne des drogues psychotropes qui sont solubles dans l'eau à César, qu'il est dissous dans l'eau, et que ces drogues transforment les hommes en moutons, enfin les tranquillisent, voici César régnant sur un troupeau d'esclaves. Or, l'idée d'utilisation de masse n'est pas une idée tellement absurde, ça n'est pas de la biologie fiction, puisque, ou de la chimie fiction, puisque on est en train de la préparer, de l'organiser en cas de situation de crise, de situation de violence, en cas de paroxysme, comme le sont les guerres, c'est la préparation de la guerre chimique, entre autres, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas exclure a priori l'utilisation de masse comme une sorte de fiction, n'est-ce pas? Je ne crois pas. Il faut faire entrer aussi cela dans les... Alors, donc il y a un très grand chapitre de l'environnement de l'homme, n'est-ce pas? De l'écologie de l'homme, l'homme qui détruit son habitat terrestre avec certaines mauvaises applications de la science. Bon. Le procès de la science, on pourrait plus gravement l'instruire pour... enfin, on peut dire, certains mauvais usages de la science peuvent détruire l'espèce, physiquement. Peuvent détruire ou altérer le milieu de vie de l'espèce. Peuvent transformer l'espèce, transformer l'humain. Le transformer soit par des mutations héréditaires, c'est-à-dire modifier le patrimoine génétique d'une manière accidentelle, et ce sont toutes les agressions chimiques, nucléaires, etc., contre ce patrimoine génétique, qui sont pourtant notre patrimoine le plus sacré, soit d'une manière consciente, le jour où nous pourrons transformer l'homme avec des acides nucléiques que nous savons désormais utiliser et faire accepter par la cellule. Alors là, c'est aussi un chapitre fantastique et redoutable. Et qui pose alors des problèmes de responsabilité gigantesques, parce que qu'on le veuille ou non, finalement, les problèmes de responsabilité se trouvent posés. Dès qu'on parle de liberté, du reste, dialectique de la science et de la liberté, qui dit liberté dit bon usage de la liberté, qui dit bon usage de la liberté dit responsabilité. Donc, qu'on le veuille ou non, on trouve ces problèmes-là. Responsabilité qui, du reste, se situe à plusieurs niveaux, au niveau immédiat, des utilisateurs de la science, c'est-à-dire des utilisateurs de chaque mortel, chaque humain qui peut aller en pharmacie acheter sa drogue, au niveau de chaque cultivateur qui peut mettre son engrais et polluer de chaque, etc., ou qui peut utiliser tel insecticide, et puis au niveau aussi des sociétés tout entières, et au niveau même de l'espèce tout entière en cas de cataclysme atomique. Donc vraiment, les problèmes de responsabilité se posent à tous les niveaux. Oui, donc ça peut transformer l'homme, ça peut atteindre l'homme, ça peut donc l'atteindre directement, ça peut transformer son milieu dans lequel il vit, et dans le milieu, je dirais pas seulement le milieu physique, l'environnement biologique, mais aussi le milieu culturel. Et ça pose alors le milieu social, socio-culturel, comme on dit aujourd'hui, et ça pose donc le problème de la civilisation. Alors là, c'est un immense problème. Science et civilisation. Alors là, on peut retrouver tous les grands thèmes de notre civilisation technologique, de notre société de consommation, et des raisons de vivre. Je vous voudrais faire aussi, dans les relations de la science, prévision, mais même tout dépend de savoir qui va utiliser les découvertes de la science. Est-ce que ces découvertes vont être remises à la société toute puissante qui pourra s'en servir éventuellement pour limiter les libertés individuelles? Alors là aussi, c'est un problème très grave. Et pour moi, déjà, le problème du droit à la procréation, de la liberté de procréer, vous voyez, reste dans le sujet, est déjà remis en question. Il a été remis en question par la pilule. Il a été remis en question avec les utilisations de masse de la pilule dans les pays, des méthodes anticonceptionnelles, autrement dit, dans les pays sous-développés. Il est même remis en question formellement au Congrès de Lyon, de Londres, de la Fondation Cuba, sur l'homme et son avenir, où Crick a dit en propre terme, Crick, le prix Nobel, qui est le futur en double liste des études cliniques, a dit en propre terme, l'homme n'a plus droit à la procréation. La procréation était un devoir au temps où la partie de l'espèce n'était pas gagnée sur la Terre. Aujourd'hui, elle n'est même plus un droit, parce que la partie de l'espèce est gagnée, avec les problèmes posés sont des problèmes sociaux, puisque c'est la société qui a la charge des tarés, la charge des hôpitaux, la charge des liens sociaux divers, qui fait qu'elle ne peut pas se permettre d'inviter à la vie des hommes qui n'auront pas une constitution génétique souhaitable pour une bonne société. Donc voilà déjà fondamentalement menacé le droit à la procréation et formellement exprimé par des hommes de science. Du reste, nous savons bien que certaines sociétés ont déjà contesté ce droit au temps d'Hitler, par exemple, qui a stérilisé les fous. Et je ne suis pas sûr que, actuellement même, dans la législation suisse, un aliéné exhibitionniste, par exemple, un malade mental, ne puisse recouvrir sa liberté contre l'acceptation d'une stérilisation volontaire. Ce qui prouve bien qu'une société, pour sa propre tranquillité, déjà dans un pays occidental civilisé, c'est la Suisse, peut envisager valablement, puisqu'elle se considérerait en cas de légitime défense, donc légitimement à ses propres yeux, de supprimer, de contester le droit à la procréation de certains de ses membres. Et ce qui pose alors, vraiment alors d'autres problèmes plus fondamentaux, qui sont des problèmes de droit. Parce que qui dit liberté, dit justification de cette liberté, moyen de la préserver, donc organisation sociale rendant possible le moyen de la préserver, donc un droit qui soit l'expression de cette organisation sociale. Et alors là, c'est encore très fondamental, car ce droit, c'est pas seulement une pratique, c'est pas seulement une formulation de règles. Finalement, c'est la théorie du droit qui se trouve posée. Finalement, ce qu'il y a de que l'on retrouve dans cette dans ce sens très bref et très rapide survol des grands problèmes, ce que l'on retrouve, c'est que justement, on débouche, qu'on le veuille ou non, sur certains problèmes fondamentaux. Et c'est aussi un des aspects de l'aventure de la science. C'est qu'aujourd'hui, la science ne permet plus d'éluder les problèmes. Elle pousse les logiques jusqu'à leurs extrémités les plus lointaines. Il n'est plus permis d'éluder les problèmes de la violence, car on sait qu'au bout de la violence, c'est la destruction physique de l'espèce. Condamner la bombe atomique, c'est demain condamner le lance-pierre. Donc on ne peut plus éluder les problèmes, on ne peut plus éluder les options fondamentales. Et finalement, l'homme se trouve en face de... finalement, là encore, c'est un affinement, je dirais, qui considérait que c'est presque un problème. Ça grandit l'homme, ça le situe dans la pleine dimension de sa liberté. Il n'est plus un être mineur. Il a désormais de tels pouvoirs que il faut qu'il les regarde en face. Alors, maintenant, on peut s'interroger, au terme de cette méditation sur la dialectique de la science et de la liberté, où l'on retrouve aussi, on pourrait appeler aussi la dialectique de l'individu et de la société, la dialectique de l'intérêt individuel et de l'intérêt commun, toute une série de très grands thèmes, finalement, l'homme chemine cerné par... écartelé entre des tensions contradictoires, mais au fond, la contradiction habite le cœur de l'homme, habite la nature même de l'homme. L'homme, c'est à la fois le corps et l'esprit, l'homme, c'est à la fois vie et mort, l'homme, c'est à la fois libre et déterminé. L'homme qui est à la fois capable d'infini et voué au néant. L'homme qui est à la fois individu avec les exigences d'épanouissement de sa propre personne et instrument de l'espèce. Et il n'est que le porteur d'une cellule germinale grâce auxquelles l'espèce qui sont chemins selon une bonne formule de bataillon sur une route semée de cadavres de la j'ai oublié de vous dire un autre aspect de la question sur le développement de la société scientifique. On a parlé de la mort de Dieu. On parlera peut-être un jour de la mort de la science. Pourquoi? Il y a d'abord... Alors ça, c'est le drame propre à la dynamique du développement de la science, de sa dynamique interne. Il y a eu un rapport anglais très intéressant de Lord Bowden, qui a été écrit à la demande du gouvernement, sur les sociétés scientifiques. Et il a dit que les besoins de la science augmentent selon une croissance exponentielle. Quand on compte le nombre d'hommes de science par année, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et il a dit en l'an 2000, tous les habitants de la Terre, si on suit cette règle exponentielle, seront des scientifiques, y compris des vaches. Et il y a donc là une sorte de croissance qui ne pourra pas durer. Et il conclut à la nécessité d'arrêter la science. Et je me demande même s'il ne fait pas aussi des rappels bibliques disant que l'arbre de la science, il ne fallait pas y mordre, il ne fallait pas mordre à ses fruits. Alors ça, c'est un autre aspect. Bon, bon. Maintenant, il y a donc cette dynamique de la science qui fait qu'elle dévore de plus en plus d'hommes et qu'elle dévore de plus en plus de moyens. Car ces entreprises deviennent de plus en plus coûteuses. Il y a donc des facteurs. Le temps où Lavoisier faisait ses découvertes dans sa cuisine est dépassé. Et alors il y a là un problème assez redoutable, car est-ce qu'on va polariser toutes les ressources d'une société pour certaines découvertes, pour certaines recherches scientifiques? C'est un problème grave, c'est le problème de la rentabilité de la science, car tout n'est pas toujours rentable. Il y a donc là, à l'intérieur de la science, des facteurs de contradiction. Enfin, il y a aussi que l'homme reste l'homme, et que si la science méconnaît par la civilisation qu'elle nous propose certains aspects fondamentaux de l'homme, il y a des constantes de l'humanité. Et l'on peut se demander si certains aspects, je ne dis pas tous, de la révolution de mai ne sont pas des aspects de rejet de la civilisation scientifique. Et si certaines de ces conséquences ne vont pas aboutir à la mort de la science. Car, ça, c'est une idée de Carreri, qui est professeur à Rome. Il m'a dit, avec les modifications de diffusion des connaissances, maintenant, la conséquence, on ne va plus pouvoir former des hommes de science. Parce qu'il y a de la part des étudiants un rejet de cette accumulation devenue intolérable de connaissances dont on veut charger leur cerveau. Est-ce que, alors, nous n'arrivons pas à une sorte de limite? Ça peut vous paraître scandaleux. La science était tellement assurée de sa croissance indéfinie, mais peut-être nous autres civilisations savons désormais que nous sommes mortels, mais nous autres civilisations scientifiques, peut-être savons-nous aussi désormais que nous sommes mortels. Et alors, à titre de pure hypothèse d'école, si vous voulez, on pourrait même imaginer, à la limite, une ère post-scientifique. Ça me semble très improbable. C'est bien évident. Mais il y a quand même un aspect, n'est-ce pas ? C'est bien évident, improbable, mais alors c'est aussi un autre des aspects de la science. La science devient de plus en plus compliquée. Il faut accumuler de plus en plus de notions qu'on va confier à l'ordinateur, avec toutes les à la mémoire des ordinateurs, etc., avec toutes les conséquences que ça va provoquer. Est-ce qu'il ne va pas arriver un moment où seuls certains hommes, vous parliez déjà du caractère ésotérique de certaines découvertes scientifiques, l'homme, ils sont juste un tout petit groupe d'hommes qui comprennent, qui parlent le même langage, et ils deviennent de plus en plus restreints parce que c'est de plus en plus spécialisé et de plus en plus aux points avancés. Est-ce qu'on ne va pas arriver, alors ça c'est un autre aspect de la logique extrême du développement de la science, cette logique extrême qui permet de n'éluder aucune des conséquences lointaines au bout de la logique, et ça frappe même la science elle-même. Est-ce qu'on peut imaginer une rupture complète entre l'immense masse des humains et les quelques hommes de science, des initiés du temps jadis, des légendes anciennes, qui seuls sont capables d'aller plus loin? C'est tellement vrai. Alors ça, que quand j'ai voulu rapprocher la physique théorique de la biologie, il y avait presque une incommunicabilité. Il peut y avoir les dangers, les périls qui menacent la science. J'en vois donc plusieurs finalement. Premièrement, l'asphyxie par sa propre production, la marée montante des publications, l'impossibilité de faire toute une bibliographie, le relais nécessaire par les ordinateurs. Mais les ordinateurs ne vont pas pouvoir tout faire, il faudra bien qu'à un moment, tout cela soit à nouveau intégré dans un cerveau humain qui en fera sa vie, qui en nourrira sa vision propre. Deuxièmement, les moyens de plus en plus grands que la science mobilise. Moyens en hommes, au point que tous les hommes de la Terre, y compris les vaches, deviendront des hommes de science dans 30 ans. Moyens matériels qui dévorent les sociétés, n'est-ce pas? Et puis alors, la dernière menace menace. Alors, autre menace, naturellement, les menaces de la liberté, société totalitaire, qui en s'aime aux hommes de science, leur propre liberté, ça c'est, j'en ai parlé. Et puis alors, autre menace, que cette civilisation qu'elle nous propose est une civilisation intolérable. Et qu'à un certain moment, les hommes la rejettent. Ils la rejettent, et ça serait grave. Parce que alors, c'est un dernier aspect, l'effort scientifique, c'est un effort. C'est une ascèse. C'est une conquête sur soi-même. Et quelquefois, je m'inquiète. C'est un tel effort qu'on peut se demander si, à un moment, l'homme pourra toujours soutenir un tel effort. Car cet effort est de plus en plus exigeant. Et puis, il y a la pesanteur de l'homme. N'est-ce pas ? À un moment donné, il va retomber. Et peut-être qu'il est déjà en train de retomber. Parce qu'ils veulent vivre, ces hommes. Ils veulent pas mourir. Ils veulent profiter de la joie de vivre. Ils veulent profiter du soleil. Et pas seulement passer leur temps dans les laboratoires, dans cette atmosphère tendue d'une société où on voit, du reste, cette joie de vivre, on la sent pas beaucoup aux États-Unis. Dans cette société engagée dans une production accélérée, dans une recherche constante, dans un, c'est la société du drame, du chaos, de la difficulté, de la tension nerveuse, de l'infarctus du myocarde. Finalement, alors ça à propos de science et civilisation, il faudra poser le problème. Quel type de civilisation voulons-nous, n'est-ce pas ? Est-ce que certains aspects de l'homme ont été à ce point méconnus qu'un beau jour, eh ben, l'homme va tout rejeter ? Et alors, finalement, c'est le problème. Si ça devient de plus en plus difficile de devenir un scientifique, parce qu'il faut être très loin, si, d'autre part, l'accumulation des connaissances devient tellement gigantesque qu'on ne pourra plus former des étudiants, et que les étudiants se révoltent dans le monde entier à cause de cela, alors où, et c'est la question de Carréry, où la science va-t-elle recruter ses servants ? Où ? Elle ne peut les recruter que parmi les étudiants. Et si les étudiants rejettent ces connaissances trop lourdes dont on veut les charger, où allons-nous les recruter ? Je crains qu'il n'y ait peut-être là encore un facteur limitant. Et alors on débouche sur quelques images anciennes des mythes. Le mythe du rocher de Sisyphe. L'homme pousse son rocher. Et puis, il se croit arrivé au sommet. Et le rocher redescend et l'écrase. Il y a là quelque chose, il y a un effort, enfin, le mythe Prométhée, enfin, le mythe prométhéen. Cet homme qui veut changer le monde, qui veut changer la vie, et qui finalement se heurte à des limites inéluctables. Il y a donc à la fois quelque chose de grandiose, de chargé d'espoir dans cette démarche de l'homme scientifique, et peut-être finalement qui se terminera d'une manière désespérée à cause des limites qui seront atteintes. Non, voyez-vous pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi c'est très difficile. C'est parce que il faut des hommes qui aient le sens du tragique. Et des hommes de science n'ont pas tous, ils s'en foutent beaucoup, le sens du tragique. Il faudrait camper l'homme de science comme un héros tragique. Or, et ça s'accorde assez bien, du reste, avec la sensibilité de notre temps. Mais Jacques Monod, par exemple, ne se campe pas du tout comme un héros tragique. Alors que peut-être il y a une tragédie de Jacques Monod, mais il ne veut pas en être conscient. Je ne veux pas du tout diminuer Jacques Monod dans cette histoire-là. Mais lui, il se campe au contraire comme un scientifique triomphant, dont la vie est un exemple de glorification de la science, dont la vie est l'œuvre. C'est à la fois rejoindre la sensibilité publique la plus profonde, n'est-ce pas, qui rejoint enfin, le scientifique héros tragique qui participe à la tragédie du monde, et en même temps heurter l'image classique qu'on se fait de la science. Mais le héros tragique, on l'a déjà senti chez Oppenheimer. On a commencé à soupçonner qu'il n'y avait pas que le héros triomphant et heureux, n'est-ce pas. On pourrait aussi faire un thème, le héros tragique, n'est-ce pas ? le savant héros tragique, n'est-ce pas, et la mort de la science. Vous voyez, il y a quelques belles expressions au fond. Ça va, alors, vraiment, il faut trouver des hommes qui aient le sens, de cette tragédie du monde. Voilà, je ne sais pas qui c'est.
De parler beaucoup, de donner des thèmes, de trouver des choses. Je pense qu'il faut maintenant un peu de réflexion.
On a bien fait d'enregistrer, de toute façon.
Manifestement. Je crois qu'il serait bon de vous poser une réflexion à ce problème, pour trouver les hommes, parce que maintenant, c'est du temps blanc.
Le problème, c'est que vous voulez que ça soit fait pour juin.
Oui. Oui, on va trouver un parti. Voilà la règle du jeu. Pour l'instant.
Alors, voilà, je crois quand même, il y a une chose importante quand même. Finalement, ce qui dépasse un des problèmes qui va se poser et qui se pose aux nations, c'est la politique de la science. Et alors ça aussi, c'est un aspect important, c'est aussi un mot important, qui doit, du reste, s'identifier avec la politique de la vie. Il faut, et la politique de l'espèce. Il faut définir une politique de la science qui ne soit pas en contradiction avec la politique de la vie et la politique de l'espèce. Alors pour ça, et là encore, ça fait partie des grandes options, devant lesquelles, que nous le voulions ou non, la science nous place, puisqu'elle va jusqu'au bout de sa logique. Et c'est même une option qui est devenue consciente pour certains gouvernements. Et je pense que ça, c'est très intéressant et c'est très important. C'est-à-dire, nous pouvons tout faire. Nous pouvons orienter la science dans telle direction ou dans telle autre. Qu'est-ce que nous allons choisir comme politique? Dans quelle direction allons-nous orienter la science? Alors là, il y a un homme qui s'occupe de cette question. C'est un homme qui m'a fait forte impression. C'est le président de la commission scientifique du Canada, qui est francophone, il s'appelle Gaudry, c'est le recteur de l'Université de Montréal. Et c'est lui qui est chargé de définir pour le Canada la politique de la science.
Le recteur de l'Université de Montréal.
Ah oui, je le connais, moi. Alors là, je sais qu'il va venir à Paris au début mai, donc vous pourrez l'avoir. Il est là le 2 mai, le 12 mai, voilà. Il m'a été désigné par le gouvernement du Canada. C'est un homme de très grande classe, de très haute stature, manifestement, et infiniment respecté au Canada. Un homme de très très haute stature. Et lorsqu'il m'a parlé de la politique de la science, il m'a donné quelques exemples. Il m'a dit par exemple, le blé. Nous pourrions décider de trouver des procédés pour que le blé produise deux fois plus, les mêmes plants de blé. On peut améliorer la productivité du blé. Mais voyez les conséquences. Le Canada va produire deux fois plus de blé. Il n'a pas l'infrastructure logistique de routes et de canaux pour le transporter et le blé va pourrir sur place. A dit, il y a eu pendant 15 jours une grève des nautonniers qui transportait le blé par les fleuves du Canada, le blé a pourri sur place. Donc rien n'est facile, il y a des problèmes d'options. Nous sommes les propriétaires, dit-il, au Canada, d'immenses territoires glacés de l'Arctique. Comment est-ce qu'on va polariser la science là-dessus, pour l'exploitation de ces territoires? Alors il va falloir tomber d'accord avec les Russes, parce qu'ils sont les seuls à avoir une expérience là-dessus. Cette politique de la science va engager la politique des nations. Et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un problème de politique de la science. Oui. Alors, pas forcément. Non. Lui, c'est dans une conception moins dramatique, je dirais. Il dit, et c'est une conception, alors, d'homme de gouvernement, pour ainsi dire, de conseiller personnel du Premier ministre, n'est-ce pas? Vraiment, lui, c'est la science, science et gouvernement, si vous voulez.
Mais la mort de la science passe forcément par une politique, une politique de la science. Si on n'applique pas une politique saine de la science va à la mort.
Il y a cela, oui, c'est vrai, mais même dans une vision moins tragique, Imaginez une vision de développement heureux de l'humanité qui continue son petit train-train sur cette petite planète. Malgré tout, ce pouvoir de la science, on va l'engager, enfin, c'est la question simplement de l'option, du choix des sujets de recherche. C'est tout, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va choisir comme sujet de recherche? Et remarquez bien que là aussi, les options, alors ça c'est très intéressant à propos de la politique de la science, assez souvent ces options ont été inconscientes et n'ont pas été conscientes. Et ça c'est très intéressant aussi. On est frappé de voir à quel point les gouvernements n'ont pas de vision globale des problèmes de leur peuple. Et un des signes, c'est les quantités d'argent, les sommes, les crédits attribués à chaque domaine de la science. On pourrait faire comparaître le directeur du centre suisse, du Fonds national suisse scientifique, pour lui dire, faites une statistique, vous avez telle somme d'argent, qu'est-ce que ça représente par rapport au revenu national, pour savoir quel est l'effort conscient, concerté, des pouvoirs publics pour la science de la Suisse, sachant bien que ça ne représente pas l'ensemble des forces suisses, puisqu'il y a toutes les industries qui font aussi une recherche importante. Mais enfin, déjà, c'est de toute façon un point de repère. Et là-dedans, faites-moi la ventilation des crédits. Est-ce que vous avez donné plus pour la physique? Combien pour la biologie? À l'intérieur de la biologie, combien pour le cancer? Ou combien pour la biologie fondamentale, pour les recherches appliquées, etc. Et vous aurez là, que vous le vouliez ou non, comme dans un miroir, les options d'une société. Et vous serez alors frappé de voir à quel point, finalement, ce sont des options de puissance qui sont prises, et pas toujours des options de vie. Des options de prestige, des options de puissance, des options pratiques d'efficacité, le reste ne venant qu'après.